Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. Comme chaque lundi, nous sommes heureux de vous retrouver et de partager avec vous un enseignement à la fois pour recharger vos batteries, pour grandir, vous inspirer et avoir une vie pleinement épanouie. Êtes-vous prêt? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à la découverte de soi.
Luc 1er, nous lirons à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Je suis à Luc, chapitre 1er, verset 27. Maintenant, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Prenez place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci extra. La vie que Dieu nous appelle à vivre, et c'est Jésus qui parle, je pense, dans Jean chapitre 10, qui dit « Le voleur vient pour égorger, voler, dérober, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » J'ai indiqué, et je réitère encore cela ce matin, que la vie à laquelle Christ t'appelle est une vie abondante. Ton voisin peut ne pas dire amen, mais parce que toi tu y crois, tu dis amen. Voilà. Une vie abondante, c'est une vie, c'est pas survivre, ce n'est pas une vie au rabais, c'est une vie maximum ou maximale. J'ai indiqué que la vie était un choix. Il y a plusieurs années maintenant, et c'est notre évêque qui l'avait dit, ou du moins par sa bouche que je l'avais entendu la première fois, vivre c'est choisir et choisir Christ c'est réussir. C'est important que je vous rappelle ce matin en introduction que la vie c'est un choix. On ne vit pas par hasard, on ne vit pas par accident, on vit toujours par choix. Dis amen. Ça veut dire que si tu échoues, c'est un choix. Si tu es malheureux, c'est un choix. Si tu es triste, c'est un choix. Si tu es heureux, c'est un choix. Si tu es joyeux, c'est un choix. Si tu réussis, c'est un choix. On ne stumble. On ne trébuche pas sur le bonheur. On ne trébuche pas sur le malheur. Il y a des choses qu'on choisit de faire et qui nous emmènent à vivre ou à mourir. Nous avons partagé des pensées précises sur le fait que les choix que nous avons déterminent ou influencent notre avenir. Mais ce matin, je veux poursuivre cette série et la conclure en m'adressant à vous sur la base du thème suivant. Processus enclenché. Oui. Processus enclenché. Processus enclenché. J'ai entendu quelqu'un dire, il y a quelques années de cela, et je n'ai pas l'auteur devant les yeux, mais la personne soulignait le fait que Rome ne s'était pas bâtie en un jour. Cette déclaration indique que quel que soit ce que vous voulez faire, quel que soit ce que vous voulez réaliser dans la vie, il y a un processus à respecter. Il y a un processus auquel vous ne pourrez pas échapper. Dites amen. Voilà. L'histoire que j'ai lue avec vous est intéressante parce qu'elle raconte la rencontre entre Marie et l'ange, entre Marie et Dieu. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'inédit, quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne s'est jamais fait dans l'histoire des hommes. Dieu est sur le point d'enceinter une vierge. Dieu est sur le point de rendre capable une femme qui ne connaît pas d'homme, mère. Dieu est sur le point de lui permettre de donner des sens alors qu'elle n'a pas reçu de semence physique. C'est important que je rappelle en introduction que rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, il n'est pas obligé de respecter les lois de la nature. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, il n'est pas obligé de respecter la norme. D'ailleurs, je crois que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Bon, ton voisin a oublié qu'on est extraordinaire, donc c'est pour ça qu'il ne dit pas bien Amen ce matin. Mais je veux le dire différemment. Dieu veut faire avec toi des choses exceptionnelles. Dieu veut faire de toi l'exception. Dans ta famille, l'exception. Dans ton entourage, l'exception. Dans ton lieu de travail, l'exception. Quel que soit d'où tu viens et quel que soit où tu vas, Dieu veut faire de toi une exception. S'il y a une règle, Dieu veut faire de toi l'exception à la règle. Si personne dans ta famille ne réussit, tu seras l'exception. Si tous tes amis ont échoué, tu seras l'exception. Si les gens autour de toi ne vont nulle part, toi, tu seras l'exception. Dieu fait de Marie une femme exceptionnelle, une femme extraordinaire. C'est une jeune femme, c'est une adolescente. Et l'ange que Dieu envoie s'appelle Gabriel. L'ange est un messager qui vient avec une bonne nouvelle. Il lui dit, tu seras enceinte. Il dit que le saint enfant qui naîtra de toi, voici son destin. Donc l'ange indique à Marie ce qui est sur le point d'arriver mais qui n'est pas encore. Et je veux dire à la jeunesse que nous sommes que nous avons besoin de Dieu pour voir notre futur. Tes parents peuvent te dire d'où tu viens. La société peut te parler de ton présent, mais seul Dieu peut te parler de ton futur. Et tu as besoin d'entendre Dieu pour pouvoir voir ton futur. Tu ne peux pas, tu ne dois pas vivre ta vie seulement par rapport à ton passé ou à ton présent. Ton futur te permet de vivre efficacement ton présent. L'ange parle à Marie et lui dit, voici ce qui va se passer. Tu vas être enceinte et ce que tu vas mettre au monde va être extraordinaire. Ce que tu vas mettre au monde sera exceptionnel. J'ouvre une parenthèse ici pour dire à quelqu'un que je crois que ce que tu portes à l'intérieur de toi est extraordinaire. Les rêves que tu vas emmener à l'existence seront extraordinaires. Les projets que tu vas réaliser seront surprenants. La musique que tu vas créer sera extraordinaire. Les livres que tu vas écrire seront extraordinaires. Les entreprises que tu vas bâtir seront extraordinaires. Tout ce que tu vas faire sera extraordinaire. Touche ton voisin, dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Touche ta voisine, dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en son futur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que son futur est plus grand que son passé? Donne-moi un amen qui déchire le ciel. Donne-moi un amen qui... Extraordinaire. L'ange dit à Marie, voici ce qui va se passer. L'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Parce qu'il sera grand. Il sera grand. Il sera grand. Et Dieu lui dit, on lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. J'ouvre la parenthèse encore une fois. Je vais parler du processus, mais j'essaye de vous donner une vision de votre futur. L'ange dit à Marie, écoute, ce que je vais faire avec toi va commencer avec toi, mais ça ne va pas s'arrêter avec toi. Je veux dire à quelqu'un que quand c'est Dieu qui t'enceinte, quand c'est Dieu qui met des rêves dans ton cœur, des projets dans ton esprit, même si ça commence avec toi, ça ne doit pas s'arrêter avec toi. À un moment, ce que tu mets au monde doit être plus grand que toi. Ce que tu écris doit être plus grand que toi. Ce que tu crées doit être plus grand que toi. La musique que tu fais sortir de toi doit parler à plus qu'à toi-même. Si c'est Dieu, ça doit bénir aussi les autres. Si c'est Dieu, ça doit toucher les autres. Si c'est Dieu, ça doit être en bénédiction à plus que toi. Il s'assiera sur le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Il faut que tu visualises que ce que Dieu veut faire avec toi est beaucoup plus grand que ta vie. Ça veut dire que quand tu mourras, ce que tu auras mis au monde doit continuer à vivre. Il ne faut pas que tu crées quelque chose qui s'arrête avec toi, de telle sorte que lorsque tu es parti, ça s'arrête. Parce que si c'est Dieu qui t'a enceinté, ça doit être plus grand que toi. Tu sais que c'est Dieu parce que ça fait peur. Tu sais que c'est Dieu parce que tout seul, tu ne peux pas y arriver. C'est ce que Marie dit à l'ange. Elle dit, comment est-ce que je vais le faire? Je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas la relation qu'il faut. Personne ne peut m'ouvrir les portes. Personne ne peut me prendre par la main. Je ne sais pas comment je vais y arriver. C'est la preuve que c'est Dieu. Si tu as tout prévu, c'est que ce n'est pas Dieu. Si tu vois tout clairement, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que quand c'est Dieu, il garde des zones d'ombre. De telle sorte que tu ne puisses pas devenir indépendant. Dieu te garde dépendant à lui. Je ne connais point d'homme. L'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Pendant tout l'échange, l'ange parle de Marie seulement. Mais à un moment, l'ange ouvre une parenthèse et il dit, regarde, pour que tu saches que ce que je te dis va arriver. Yes, Lord, I heard you. Il dit, voici ta parente Élisabeth est à son sixième mois. Elle, de qui on disait qu'elle ne pouvait pas enfanter. Ah, elle est à son sixième mois. Dieu dit à Marie, écoute, pour que tu saches que ce que je te dis, je vais le faire. Regarde dans ton environnement, il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté un miracle. Voilà pourquoi je considère que c'est crucial de ne pas être seul. Est-ce que vous m'entendez? Quel que soit ce que vous voulez faire, il ne faut pas qu'on vous mente. Les gens isolés, à un moment, deviennent un danger pour eux-mêmes. Normalement, il doit y avoir dans ton environnement des points de référence, des gens, même s'ils ne vont pas exactement vivre la même chose que toi, mais qui boostent ta foi par leur témoignage. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas marcher avec des gens qui ne vont pas là où tu vas, qui ne ressemblent pas à ce que tu veux être. Pourquoi toi, c'est important parce que je vais vous parler du processus. Marie est enceinte. Quand l'ange lui parle, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je crois que c'est à ce moment-là que Jésus est rentré en elle, que la semence est rentrée en elle. C'est crucial, écoutez-moi, c'est crucial. Je sais que vous me regardez bizarrement, mais c'est important que je vous dise ça. Dieu ne viole pas les gens. Authentique. Marie a dit d'accord, je suis d'accord enceinte moi. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, si tu ne dis pas oui, il ne pourra pas le faire. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, si tu ne lui dis pas oui, il ne pourra pas le faire. Il faut arrêter de dire à Dieu de toutes les façons, tu es Dieu, fais comme tu veux. Parce que si Dieu voulait faire comme il veut depuis, il l'aurait fait. C'est toi qui le bloques. Dans ta vie, c'est toi qui l'empêches de faire ce qu'il veut faire. Pour certains d'entre nous, le processus n'est pas enclenché parce qu'on n'arrive pas à lui dire oui. Je veux faire de toi ceci. Ah, Seigneur, mais je vais trop perdre. Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Je ne peux pas, Seigneur, mais non. Et Dieu attend. J'entends Dieu qui parle à une église en Apocalypse. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Ça veut dire que Dieu ne force pas les portes. Il frappe à la porte jusqu'à ce que tu ouvres. Et quand tu ouvres, il dit d'accord, maintenant que tu m'as ouvert la porte, on va souper ensemble, on va partager ensemble, on va communier ensemble. Touche ton voisin, dis-lui, ouvre la porte. Cherche ta voisine, dis-lui, ouvre la porte. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton portefeuille. Ouvre la porte. Ouvre la porte de tes projets. Ouvre la porte. L'image va être graphique, mais dans le monde réel, on ne tombe pas enceinte sans ouvrir les jambes. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et quand Dieu veut enceinter ton esprit, il faut que tu ouvres ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur. Et vous ne pouvez pas garder le cœur fermé en disant « On m'a trop blessé, on m'a trop déçu, j'ai été trahi, j'ai fait confiance, ça n'a pas marché. » Il faut ouvrir ton cœur à nouveau, quel que soit ce que tu as vécu. Tu ne peux pas garder le cœur fermé. Il faut que tu ouvres ton cœur. Ouvre la porte. Je parlais avec quelqu'un hier et je lui faisais remarquer que faire confiance, c'est risqué. Faire confiance à Dieu, c'est risqué. Vous savez, gloire à Dieu, j'ai le temps. Laissez-moi vous rappeler que Dieu est au ciel. Bon, je vais dire ça différemment. Dieu est en nous et il est au ciel. Ça veut dire que quand ça ne marche pas, personne n'est capable d'aller chez lui pour dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Imagine, tu dis, ok Seigneur, je te fais confiance. Je crois que tu vas faire de moi ce que tu dis que tu vas faire de moi. Mais quand tu as honte, Dieu ne partage pas la honte avec toi. Non, authentique, les gens ne peuvent pas dire non, c'est Dieu, ils vont croire que c'est toi. Parce que Dieu a déjà un curriculum vitae, Dieu a déjà un CV. Il a béni Abraham, il a enceinté, il a ouvert le ventre d'Élisabeth, de Sarah. Et donc, on a tellement de témoignages que quand ça ne marche pas avec toi, on ne dit pas que c'est Dieu qui n'a pas fait. On dit que ce n'était pas Dieu qui t'avait parlé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà pourquoi on a peur que ça ne marche pas. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Authentique. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Parce que tu as peur que ça ne marche pas. Imagine que Dieu vienne te voir et il te dit, je fais de toi le prochain milliardaire du Gabon. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas garder ça pour toi? Tu ne vas pas prendre le risque de dire aux gens, je serai le prochain milliardaire. Parce que si ça ne marche pas, oh, Facebook est là, WhatsApp est là, Twitter est là, Instagram est là. Imagine maintenant, Dieu vient te voir et il te dit, je veux faire de toi un homme d'affaires. Alors qu'au boulot, tu as une place sécurisée. Tes parents ont déjà prévu le travail où tu dois être. Et maintenant, toi, tu dois aller voir tes parents. Pourquoi? Parce que tu as entendu une voix dans ton esprit ou parce que tu as un rêve que tu portes dans tes entrailles. Et là, tu vas voir les parents, tu vas voir les darons. Tu dis, bon, ok, c'est vrai que vous avez payé mes études, mais quand je rentre, voici mon projet. Je veux travailler pendant une courte période, mais je veux lancer mes affaires. Pardon? Je crois que nous n'avons pas appris à faire confiance à Dieu tant qu'on n'a pas pris le risque d'être rejeté. Est-ce que vous savez que Dieu va mettre le désordre dans le couple de Marie? Quand il vient voir Marie, Joseph n'est pas là. Il vient voir Marie et dit, yo Marie, tu vas être enceinte. Mais je suis vierge. Non, t'inquiète, je gère. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Ça ne veut rien dire. Authentique, on ne tombe pas enceinte parce qu'une ombre est tombée sur nous. Ça ne veut rien dire. Le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Elle a juste cru. Quand elle sort de là, elle va voir Joseph. En fait, pas dans le texte de Luc, mais à un moment, elle va voir Joseph. Bébé, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Hein? Joseph sait que ce n'est pas lui le père. Et la Bible dit, Joseph étant un homme de bien, ne va pas vouloir répudier Marie en public. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, si vous répudiez une femme pour infidélité, elle est lapidée. Donc Joseph aimait Marie, malgré le fait qu'il pensait qu'elle l'avait trompé. Il a voulu la protéger en ne l'exposant pas. C'est tout un message parce que voici quelqu'un qui est convaincu qu'on l'a trompé mais qui ne va pas sur WhatsApp. Je sais que dans cette génération, on ne parle pas de ça. Mais voici quelqu'un qui est convaincu qu'on l'a trompé et ça ne se retrouve pas sur Instagram, ça ne se retrouve pas sur Facebook. Je sais que vous ne savez pas de quoi je parle, mais les statuts WhatsApp visés, Joseph aurait pu. Non, authentique, Joseph aurait pu. Les femmes aujourd'hui, toutes des... Alors que je voulais t'épouser et tu... Tout le monde aurait su dans la zone qu'il parlait de Marie. Tout le monde aurait su. On l'aurait lapidé. Joseph était convaincu que Marie l'avait trompé, mais il ne l'a pas exposé. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je parle du processus. Écoutez-moi, je veux vous dire que quand Dieu vous engage dans la vie, quand Dieu vous veut faire quelque chose avec vous, dans le processus, il y a le rejet. Il y a le rejet des gens qui vous entoure. Il y a le fait que vous devez accepter d'être incompris. Qu'est-ce que tu vas dire à Joseph? J'ai vu un ange. Il croit aux anges. Mais pourquoi il est venu chez toi? Tu es la seule vierge du pays. Et c'était pas la seule vierge du pays. que je dois dire ça même. Les époques ne sont pas les mêmes. Non, ce n'était pas la seule vierge du pays. Écoutez-moi. Parce que non, attendez, je vous explique. Parce que vous, vous croyez que la seule chose qui l'a démarqué des autres femmes, c'est sa virginité. Et ce n'est pas vrai. C'est la grâce de Dieu qui l'a localisée. Ce n'est pas sa virginité. Oui, elle s'est gardée vierge, donc ça l'a qualifiée. Mais il y avait d'autres vierges. C'est un peu comme Esther qui doit remplacer Vasti. Esther fait le concours de beauté. Il y a d'autres belles filles. Mais ce qui la démarque, c'est la grâce. Il faut que vous acceptiez que ce qui va vous démarquer, ce n'est pas votre beauté. Ce n'est pas votre swag, ce n'est pas votre classe, ce n'est pas votre élégance, ce n'est pas ton portefeuille. Il faut que tu arrêtes de mettre ta confiance en tes biens. Il faut recommencer à croire en la grâce de Dieu. Bref, je parle du processus. Joseph répudie Marie, il dit, entre toi et moi c'est fini. Je t'aime, mais je ne peux plus, je ne peux pas. Et la Bible dit que alors que Joseph va aller dormir, Dieu va rentrer dans son sommeil. Il va dire, Joseph, n'aie pas peur de prendre pour épouse Marie, car c'est moi qui l'ai enceinte. Ce texte m'a béni énormément. Écoutez-moi, parce que ça veut dire, premièrement, que Dieu prend ses responsabilités. Dieu n'est pas un père irresponsable. Si Dieu t'enceinte, il va veiller sur l'enfant. Si Dieu met un projet dans ton cœur, il va veiller sur le projet. Si Dieu met un rêve dans ton cœur, il va veiller sur le rêve. Si Dieu met quelque chose dans tes entrailles, il veillera sur la chose qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi tu n'as pas à paniquer en te disant, mais comment je vais faire? Seigneur, tu m'as enceinté, maintenant je fais comment? Non, le Dieu qui t'a enceinté va veiller sur la grossesse dans ton ventre et il va veiller sur la grossesse quand elle va sortir. Dieu prend ses responsabilités. La deuxième chose qui me paraît cruciale de vous faire remarquer dans le processus, parce que je parle du processus et je parle du rejet. Si Dieu considère que quelqu'un est nécessaire à ton destin et à la grossesse que tu portes, même si la personne a dit elle ne veut pas de toi, Dieu est capable de rentrer dans son sommeil. My God. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je dis que quand quelqu'un, Dieu sait que j'ai besoin de quelqu'un, la personne peut me bouder, ne plus me parler, dire qu'elle ne veut plus de moi dans sa vie. Ses nuits vont être perturbées. Elle ne va plus dormir. Elle n'aura plus la paix jusqu'à ce qu'elle revienne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à moi. Écoutez-moi. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de vouloir préserver une relation au détriment de ce que je porte. Ce que tu portes est plus important que la relation. Et si Dieu considère que la relation est nécessaire à ce que tu portes, Dieu va régler les choses. Ce n'est pas à toi de faire des compromis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Touche ton voisin et ne fais pas de compromis. Pas ce type de compromis, pas ce type de compromis, pas ce type de compromis.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ce podcast pour en écouter davantage. Restons connectés également sur les réseaux sociaux et le site internet michelambourouet.com. À lundi prochain, ici même, pour encore plus d'inspiration. Passez une excellente journée sous la bénédiction de Dieu. À très bientôt.